franceinter.fr.
Bonjour. En ces fêtes de fin d'année, qui sont un moment de célébration, mais aussi un moment de consommation effrénée, au moins pour ceux qui ont encore les moyens de consommer, nous avons décidé ce matin de vous inviter à une pause. Une pause au Carmel de la Paix, à Mazille, à côté de l'abbaye de Cluny, en Saône-et-Loire. Il y a 6 ans, Emmanuel Davy avait eu le privilège rare de recueillir les réflexions des religieuses qui y vivent et qui habituellement ont fait vœu de silence, ne se parlant que le dimanche. À l'époque, 29 sœurs âgées de 28 à 98 ans vivaient en ce lieu. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 27, âgées de 26 à 92 ans. Elles ont très peu de contact avec l'extérieur, quelques visites de leur famille ou bien des hôtes qui viennent passer quelques jours en retraite. Elles vivent en quasi-autarcie et 80% de ce qu'elles consomment provient de la culture et de l'élevage qu'elles pratiquent sur leur terrain d'une vingtaine d'hectares. Le site où elles sont installées depuis 1971 n'a rien d'une antique abbaye. Il s'agit de bâtiments à l'architecture contemporaine, dessinés par l'architecte espagnol José Luis Sert, disciple de Le Corbusier. Le regard de ses sœurs sur la société de consommation dont elles vivent en marge nous a semblé, 6 ans plus tard, avoir gardé tout son intérêt et son actualité. Nous vous proposons donc de réécouter ce matin ce reportage, Carmélite à tout prix.
Interception, le magazine de la rédaction.
Bonjour ma sœur. Nous sommes à combien de kilomètres de Cluny ?
5. 5 kilomètres de Cluny. C'est tout proche. C'est vraiment le lieu où nous avons toutes nos... y compris les médecins généralistes. Et il y a une ou deux grandes surfaces, puis la pharmacie, enfin tout ce qui est très quotidien pour une communauté de 30 femmes de tous âges.
D'accord.
Donc voilà les tables. On va te dire à Agnès-Marie de sortir un peu.
D'accord.
Alors voilà nos vaches.
Elles sont énormes. Agnès-Marie ?
Oui.
Tu peux venir, s'il te plaît ?
Oui.
Bonjour, ma sœur. On vous dérange en pleine activité.
Ah,
vous
ne dérangez pas du tout.
Ah, très bien. Vous allez les sortir quand, à partir du mois d'avril ?
La mise à l'air, voilà, c'est à peu près au 15 avril.
Et lorsque vous avez fait le souhait de vous engager dans une vie religieuse, vous pensiez être dans cet univers de l'agriculture ?
Non, pas du tout.
Quand on parle des sœurs, on vous imagine priant de longues heures dans la journée, étant en retraite permanente en vous-même, enfin en temps de silence.
Cette image que vous avez, elle n'est pas viable. Elle n'est pas viable.
Économiquement,
comment pouvez-vous imaginer des êtres qui vont quelque part en prière toute la journée, de façon tout à fait
détachée,
en dehors de ce qui se vit. Mais nous sommes bâtis comme tout le monde. Et moi, je pensais que quand j'entrais dans une communauté, j'allais, sur le plan professionnel, trouver ma place. C'était exclu pour moi que je ne la trouve pas. Mmh. Sachant très bien que le moine, il doit travailler pour gagner sa vie. Et puis aussi pour avoir une énergie tout au long de sa journée. Je pense que l'énergie physique que l'on déploie au travail, derrière les vaches ou dans les champs, ou à faire des clôtures ou tout un tas de choses, elle est utile pour l'énergie spirituelle dont nous avons besoin. Parce que dans la vie monastique, il faut une dose d'énergie spirituelle. Elle
ne
veut pas se trouver
dans
les mains jointes et à faire silence loin des autres, dans la solitude. Peut-être un peu, mais parallèlement, nourrir les sœurs, la communauté qui est là. Nous produisons nos fruits et légumes, notre lait, notre fromage, notre viande. Et pour l'accueil, j'entends les gens que nous accueillons, les hôtes. Plus la communauté, ça vaut le coup quand même.
Est-ce que vous vous sentez intégrée dans notre société de consommation ou vivant quand même un peu en marge ?
je pense que nous sommes intégrés. Nous sommes intégrés, mais avec une façon de vivre qui se démarque.
Radicalement.
Mais ce n'est pas pour déplaire, je vous assure que moi, ça me plaît. Nous sommes des révolutionnaires dans notre façon de vivre. Aujourd'hui, où les gens consomment énormément, où c'est un peu le tout pour soi, pourvu qu'on amasse un peu d'argent, même beaucoup d'argent, et qu'on dépense, que l'on voyage, et qu'on n'a jamais assez vu, et qu'on n'a jamais assez mangé, et qu'on n'a jamais assez dansé, dans la vie monastique, on dit stop. Moi, souvent, dans ma prière, je dis « Oh Seigneur, si tu pouvais dire aux hommes, arrêtez-vous. »
On vous sent un peu remontée contre cette société-là.
Non, pourtant pas. Je ne suis pas remontée contre elle. Mais la vie monastique en elle-même, elle va en sens inverse de la pente naturelle de la vie des gens. Et nous-mêmes, à l'intérieur de cette vie monastique, moi, je n'ai pas le sentiment d'être une moniale à 100%. J'aspire à l'être. J'aspire à l'être et tout est là et toute mon énergie va vers ça.
Êtes-vous une femme libre?
Écoutez, je crois que oui. Si j'étais pas libre, si je sentais la moindre entrave à cette liberté qui est essentielle pour l'être humain, pour qu'il soit heureux, pour qu'il fasse sa vie, je serais partie depuis longtemps. Parce qu'on peut partir d'un monastère.
Le Carmel de la Paix, ce sont 29 sœurs de 28 à 98 ans. Elles vivent dans le silence et ne sortent jamais, sauf une, toujours la même, celle qui fait les courses à Cluny 3 à 4 fois par semaine pour acheter le minimum, car au couvent, on vit en quasi-autarcie. Les sœurs sont agricultrices et produisent 80% de ce qu'elles consomment. Au milieu de l'exploitation agricole, comme posé sur la colline, des bâtiments cubiques. C'est le Carmel, tout en béton. Il ressemble à un vaisseau, les fenêtres des chambres à des hublots. Chaque sœur habite dans sa chambre, son ermitage, car ici on ne parle pas de cellules. C'est le lieu où elles se recueillent, où elles font de la vannerie, de la couture et de l'artisanat. Au Carmel, tout le monde travaille. La cuisine à elle seule mobilise 8 religieuses.
La hotte qui aspire l'humidité du lave-vaisselle.
Enfin, alors, on peut peut-être l'éteindre.
Oui,
ça
sera peut-être
mieux. Pour dialoguer, ça sera plus simple. Ah, c'est mieux le silence. D'autant que le silence, c'est quand même ce qu'on recherche ici.
Voilà. C'est le climat dans lequel nous essayons de vivre et que nous essayons d'offrir aussi aux personnes.
Oui. Et vivre dans le silence, c'est pas trop difficile.
C'est une exigence que nous avons toujours à maintenir, toujours à rechercher. Et puis on fait l'expérience surtout d'une communication beaucoup plus profonde dans le silence qu'avec le bruit et les paroles, paradoxalement. Et on se nourrit, et la vie de communauté aussi se nourrit de cette communication que nous pouvons avoir les unes et les autres dans le silence. Mais bien sûr, dans le travail, on est obligé d'échanger un minimum les paroles nécessaires pour la mise au point.
Et vous déjeunez en silence aussi ?
On déjeune en silence sur fond d'information. Parce qu'à midi, ce sont les nouvelles du journal qui nous sont lues. Et le soir, on écoute en général France Inter.
Et vous êtes,
on n'échange pas entre nous.
Et vous faites ensuite des commentaires sur...
Non. Non.
Donc la façon dont vous recevez les informations qui vous sont données, par exemple, par le journal de 19h, bon, ça se passe évidemment en silence, mais après le dîner, il n'y a pas un échange sur une information qui vous a frappé ou intrigué?
Nous nous rencontrons le dimanche après-midi et le dimanche soir, et à ce moment-là, c'est le moment où nous échangeons sur les informations que nous avons eues pendant la semaine.
Jamais auparavant.
Dans la journée, non.
Vous n'avez pas le temps?
Ça n'est pas prévu, disons.
Et puis,
nos journées sont bien pleines.
Oui.
Alors, justement, vos journées, elles se passent comment?
Nous avons la journée qui est rythmée entre les temps de prière d'office, que nous appelons l'office à l'église. Ça représente en tout 5 heures, à peu près, autour de 5 heures. Et puis, en dehors de ça, c'est le travail.
La cuisine, c'est une ruche. Il faut préparer les repas des 29 sœurs, mais aussi accueillir en moyenne 130 hôtes par semaine. Ils viennent quelques jours en retraite, logés et nourris. On ne leur présente pas de facture à la fin du séjour. Libre à eux de laisser de l'argent, quelques mots de remerciement ou d'aider les sœurs à la ferme. Vu de l'extérieur, l'accueil peut paraître gratuit. Mais pour les carmélites, la notion de gratuité n'existe pas. Elles préfèrent évoquer le partage. Elles offrent le fruit de leur travail.
Moi, je ne pense pas personnellement qu'on puisse cuisiner sans amour. Parce que la nourriture, c'est vraiment... la mère nourrit son enfant, je dirais que c'est l'amour tangible. Hein. C'est ce qui fait vivre l'être. C'est la vie qu'on donne. Et donc, quand je travaille à la cuisine, personnellement, je pense aux gens qui sont là, je pense à les nourrir, je pense à eux, je veux les rendre heureux. Je crois qu'il y a toujours cette idée derrière de vouloir rendre les gens heureux. Et donc, on peut le faire de nos mains, ça, c'est merveilleux. C'est quelque chose d'infiniment précieux. Et alors, c'est peut-être ça qu'on ne trouve pas dans la société de consommation, mais... Enfin, nous, en tant que communauté, on peut dire qu'on ne mange jamais individuellement, hein, sauf celle qui est malade dans sa chambre. Mais bon, voilà. Autrement, on est toujours ensemble pour prendre la nourriture. Mais c'est très fort, ça. Comme...
Alors ça cuit déjà pour ce soir, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord. Donc il est 14h50 et vous préparez le repas du soir.
Oui, parce qu'on a l'office à 17h30. Ah, oui. Donc il faut que tout soit dans l'armoire chauffante. D'accord. Avant 17h30.
D'accord. Ah oui, tout ça est très organisé.
Et le matin, c'est pire.
Oui, c'est
parce que la messe
le coup de feu.
Donc, il faut souvent préparer la veille au soir.
D'accord. Bon, parfait. Merci beaucoup.
Au revoir.
Ah, il y a un chien.
Alors, c'est assez admirable qu'il n'ait pas remarqué que vous n'étiez pas de la maison. Il doit être très fatigué.
Comment il s'appelle, ce chien?
Chouti. Si vous le voulez, on vous le trouve.
Là, nous sommes dans quelle pièce?
On est dans la salle des visites, où nous recevons les visites.
Vous recevez les membres de votre famille, par exemple?
De notre famille, ou des amis de la communauté, ou quand il y a des groupes qui souhaitent rencontrer une ou deux carmélites, on les reçoit ici.
D'accord. Le sujet qu'on souhaitait aborder, c'était le regard que vous portez sur notre société actuelle, et en particulier la société de consommation dans laquelle on vit. Comment vous l'apercevez, cette société?
C'est la nôtre autant que la vôtre, et on ne se sent pas en décalage, parce qu'on a les mêmes questions, les mêmes inquiétudes, notamment face à, je crois que c'est la disparité entre ceux qui ont et ceux qui n'ont rien, ceux qui ont trop, hein, et ceux qui n'ont rien, et ça, on partage l'inquiétude.
Alors vous dites, c'est notre société, et alors pourtant, vous vivez d'une façon un peu hors norme, puisque 80% de ce que vous consommez est produit par la communauté. Ce qui est loin d'être le cas de beaucoup de personnes, puisque nous, on se contente d'aller au supermarché, de faire nos courses, et puis voilà.
Parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Je crois qu'il y a tous les groupes qui peuvent faire autrement le font de plus en plus. Bon, pour nous, on a une vie qui est organisée en communauté, et peut-être justement, ça fait partie des autres modes de vie possibles. On n'est pas les seuls à en proposer, mais... Pour résister à cet engrenage, à ce flot, il faut être plusieurs. Hein. Il faut concevoir sa vie.
Faire front.
Oui, pour pouvoir, ne serait-ce que pour pouvoir organiser la vie autrement. Hein. Je pense qu'une femme qui travaille et qui a ses enfants ne peut pas faire autrement que de courir au supermarché acheter. Hein.
Et le fait de consommer, pour vous, c'est l'expérience de la solitude?
Une certaine solitude, une certaine carence d'être, une certaine carence affective et, pousse à à chercher d'en avoir une compensation.
Et est-ce que, malgré tout, il y a parfois des choses dont vous auriez envie et que vous n'avez pas ici ?
On a tous des envies, hein. Moi, il faudrait que je cherche pour savoir de quoi j'ai envie. Mais on a tous des envies, on a tous... Mais nos envies, une fois satisfaites, rebondissent et grossissent. Enfin, je veux dire, c'est pas l'envie qui fait vivre, c'est le désir. C'est un autre niveau. Et c'est ça aussi, la société de consommation essaie de nous susciter des envies pour les combler momentanément, mais très momentanément, et puis ça rebondit dans une autre envie. Mais le désir reste entier. Le désir essentiel, je crois que c'est le désir de la relation. Hein. C'est le désir d'être en relation avec d'autres, d'aimer, d'être aimé. C'est pas de posséder. Je crois
et,
pas.
Et vous, ce désir-là est satisfait dans votre choix de vie ?
Ah, je crois pleinement, oui.
C'est un luxe ?
Oui, c'est un luxe, oui.
Qui n'a pas de prix ?
Non, tout à fait, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Quand je dis que je suis comblée, que nous sommes comblés, c'est parce qu'on trouve une certaine joie dans cette liberté qu'on arrive à prendre les unes grâce aux autres. Parce que toute seule, ça serait très difficile. Je reviens là-dessus. Je crois vraiment que la vie commune, le tissu social est quelque chose de très fort et qu'on est en train de l'abîmer. Ça, c'est une des dérives. Hein. On est en train d'abîmer le tissu social.
Alors, comment on pourrait le restaurer, ce tissu social, à votre avis ?
Oh là là, vous me demandez des grosses recettes. Hein.
Ah, peut-être que vous en avez une.
Je vous en donne une, l'Évangile. Ça vous va ?
La lecture de l'Évangile.
Ah, pas uniquement la lecture. Prendre à la lettre ce que l'enseignement essentiel de l'Évangile, c'est-à-dire la fraternité humaine. Le partage, le respect de l'autre, la considération que l'autre a droit autant que moi. Hein. Il y a quelque chose de très vieux dans la tradition chrétienne et qu'on oublie, c'est cette notion que la terre est à tous et que les biens sont destinés à tous. Et celui qui n'a pas et qui prend n'est pas un voleur.
Mais alors, actuellement, on n'est pas du tout dans cette logique de réflexion.
Non.
Vous le regrettez ?
Ah ben bien sûr, et vous aussi quand même.
Ah bon. Moi, je...
Non, je veux dire qu'on est dans un monde d'injustice, on en est tous... Mais on ne sait pas comment s'en sortir, hein, mais on est dans un monde d'injustice parce que les uns ont trop, gaspillent, accaparent, et d'autres n'ont rien. On est tous avec une terrible mauvaise conscience, hein, je crois.
Très bien.
Parce qu'on ne voit pas comment s'en sortir.
Au monastère, tous les biens sont mis en commun, y compris les pensions de retraite. Les questions d'argent sont évoquées par le conseil composé de la prieure, la supérieure du Carmel et de 4 sœurs. Le couvent est placé sous tutelle préfectorale. L'évêque a également un droit de regard sur les comptes. Comme toute exploitation agricole, le monastère peut bénéficier de subventions attribuées par le conseil général et le conseil régional. À cela, il faut ajouter les dons qui représentent environ 10% du budget global et les ventes des produits de l'artisanat.
Eh bien, moi, j'ai été chargée depuis 5 ou 6 ans de faire la comptabilité de la communauté et puis d'assurer l'économat. C'est-à-dire de suivre les travaux, de contacter les entreprises, etc.
Donc vous réglez au plus près les budgets.
C'est ça. J'essaie de les équilibrer chaque année.
Lorsque l'on s'occupe des questions d'économat, on est au cœur de ce qui nous amène ici, c'est-à-dire la relation à l'argent, à la gestion, au budget. Est-ce que vous vous sentez inscrite au cœur de la société de consommation telle que on la vit aujourd'hui?
Inscrite sûrement et sûrement sollicitée comme tout un chacun. Mais bon, comment résister? Je pense d'abord que nous n'avons pas les moyens d'y succomber trop souvent parce que même si le budget est équilibré et si maintenant que les emprunts sont remboursés, nous ne pouvons pas faire d'écart. Hein, ça, c'est sûr. Et en plus de ça, nous avons le souci quand même de partager les dons que nous recevons.
Partage, il se fait de quelle façon ?
Eh bien, soit à travers une association. Par exemple, tiens, le dernier chèques que nous avons envoyés à travers des sœurs qui travaillent au Cameroun, nous avons financé le creusement d'un puits. Et nous, quand nous disons aux jeunes qui arrivent, que pensez-vous de cette option par rapport à la non-possession de la richesse ou à l'acceptation d'une certaine pauvreté, tout ça, elles comprennent assez vite qu'il s'agit d'entrer dans une plus grande liberté. Mais ça nous paraît très important de ne pas se mettre en opposition avec le monde. Alors, résister, ça veut dire ne pas être d'accord avec ce qui se vit. Je résiste, c'est-à-dire que je n'accepte pas la société telle qu'elle est, parce que je sais qu'elle n'offre pas aux citoyens toutes les conditions de développement de son être. Et je sais aussi que cette société-là appauvrit des sociétés entières dans d'autres pays, donc je ne peux pas l'accepter. Je choisis une forme de vie qui résiste à cet état de fait que je n'accepte pas. Et par là, je fais signe en disant il y a d'autres voies, d'autres chemins de bonheur que nous pouvons ouvrir. Si je refuse de m'investir dans les biens matériels, la consommation à outrance, etc., je vais développer, il me semble, les biens de l'esprit. C'est un peu dans ce sens-là que je parlais de résistance.
Je suis une novice, entrée il y a un an et quelques mois au Carmel, et donc j'ai pris l'habit il y a un peu plus d'un mois et je chemine vers un chemin d'engagement, de consécration.
Et vous avez quel âge ?
28 ans.
Et auparavant, vous faisiez quoi ?
J'étais prof en banlieue, dans un collège, en histoire-géo.
Et parallèlement à cette vie professionnelle, vous sentiez cet appel ?
Il y a eu un moment dans ma vie qui a été un moment de rencontre où j'ai senti au plus profond de moi-même que j'étais rencontrée par une présence et que cette présence c'était Jésus, c'était le Christ. Et cette rencontre a été un moment de joie et de paix intense. Il y a eu une liberté, un souffle au plus profond de moi-même, enfin dans un endroit vraiment que je ne connaissais pas et qui me dépassait complètement, mais qui m'engageait, moi, dans ma petite personne.
Et vous aviez une éducation catholique, enfin, vous baignez un peu dans ce milieu déjà ou pas ?
Oui et non.
Vous alliez chaque semaine à la messe le dimanche matin ?
Non, pas du tout. Non, j'avais été baptisée parce que j'ai quand même une famille qui a des racines. J'avais une maman effectivement qui allait à la messe assez fidèlement, mais le reste de ma famille pas tellement. Et puis moi j'étais plutôt en rébellion, en révolte, donc j'ai cherché un peu, je crois, un désir d'absolu ailleurs. Alors j'ai été en Inde, j'ai vécu les expériences que font beaucoup de jeunes aujourd'hui pour essayer de trouver un peu ce qui pourrait être une voie de liberté, qui est du souffle. Bon, je me suis plantée assez souvent, je me suis retrouvée parfois vraiment blessée, mais voilà, j'étais jamais satisfaite, quoi. J'ai été par exemple voir un peu du côté des hippies actuels, quoi.
Tout ce que vous avez connu auparavant dans votre vie, ça ne vous manque pas ?
Aussi, bien sûr.
D'aller au cinéma, d'aller prendre un verre avec des amis, d'aller dîner dans un restaurant.
Si, ça me manque, mais je sens que c'est aussi un chemin d'abandon pour une autre densité de relations qui passe par le Christ. Et je crois que mes amis me manquent beaucoup, ma famille.
Et vos parents sont heureux pour vous ?
Je crois qu'ils le sont parce qu'ils sentent que je suis heureuse. Et puis en même temps, évidemment, il y a cette douleur du détachement, de sentir une place vide quand il y a des réunions de famille. Et ça, c'est pas évident, c'est sûr, et j'en ai bien conscience. Mais je crois que tout parent veut le bonheur de ses enfants d'abord, et ça, ils le sentent ici, ils sentent cette paix.
Alors, vous avez côtoyé il n'y a encore pas très longtemps la société de consommation,
oui.
Parce que c'est ce qui nous amène ici. Quel regard vous portez sur elle ? Et alors, vous l'avez vraiment connue, enfin, l'accès à Internet, en trois clics, on achète ce qu'on veut, enfin, on claque des doigts et on obtient.
Oui, j'ai l'impression, moi, que cette hyper-technologie, pour moi, beaucoup de superflu, quoi. J'ai l'impression qu'on perd un petit peu le lien à l'essentiel, parce qu'on est évidemment toujours attiré par le fait de consommer plus, d'acheter, d'aller plus vite, etc. Et du coup, on oublie complètement notre rythme de personne, parce qu'on est speed, quoi. Enfin, moi, j'habitais à Paris, et c'est vrai que j'étais tout le temps, quelque part déconnectée de moi-même, déconnectée de ma base, par le fait d'aller vite, de ne pas perdre de temps dans les transports, d'essayer d'aller au plus efficace en allant sur Internet. Et bon, je perdais d'ailleurs beaucoup de temps en préparant mes cours parce qu'on tombe dans plein d'impasses dans Internet. On perd de plus en plus ce temps de respiration, quoi. On peut le dire, oui, non, c'est sûr que le silence a très peu de place aujourd'hui. Oui.
Ça fait peur, le silence.
Oui, ça peut faire peur, c'est sûr. C'est sûr, j'ai vu des personnes venir me visiter et me dire « Julie, ce silence est mortel, il nous renvoie à une angoisse terrible et on ne supporte pas. » Et je peux comprendre qu'on ne supporte pas. C'est vrai que c'est au départ violent quelque part, de se sentir face à soi-même et puis de voir remonter de soi tous ces bruits et toutes ces angoisses, parce que c'est elles qu'on entend aussi, hein, et c'est apprendre à se confier, je crois.
La communauté, il y a 30 sœurs.
Oui.
Ça veut dire que même si ces individualités sont riches, vous aurez toujours les mêmes personnes.
Oui, mais en même temps...
Vous privez peut-être aussi d'un contact avec le reste du monde, avec d'autres personnalités très riches.
Oui, mais je crois que... Bon, déjà, dans ces 30 personnes, il y a énormément de diversité. Elles sont comme un échantillon pris dans le monde. De toute façon... Il y a toujours des choses qui nous énervent chez l'autre. Et donc que l'autre, ce soit celui qu'on rencontre, qui a un nouveau visage tous les jours, où là, il y a une certaine facilité parce que c'est l'éphémère et qu'on peut zapper s'il nous gonfle. Ici, on ne peut pas. On est forcément confronté à l'autre dans ses limites, dans ses faiblesses, dans ce qui est un peu pesant chez elle. Mais je crois que c'est là l'essentiel, quoi. C'est d'accueillir l'autre alors même qu'il n'est pas comme nous et qu'il nous contredit, qu'il nous contrarie, qu'il empêche notre liberté, notre volonté de puissance.
La vie en communauté peut dérouter les jeunes sœurs. 30 ans, c'est l'âge moyen d'entrer au Carmel. Il est préférable d'avoir terminé ses études et d'avoir eu une expérience professionnelle. Lorsqu'une jeune femme souhaite devenir carmélite, elle fait tout d'abord de fréquents séjours à l'hôtellerie du monastère pendant une année. En moyenne, une sur deux se rend compte alors qu'elle n'est pas faite pour cette existence. Celle qui décide de rester intègre le petit groupe des novices pendant un an. Puis c'est l'étape de la prise d'habit. Cette période sans engagement définitif peut durer 5 à 6 ans. Ensuite, c'est la consécration. La religieuse prononce les vœux traditionnels d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Cet engagement très fort, les jeunes sœurs y adhèrent totalement. Sœur Marie-Christine est chargée de les accueillir.
Je me rappelle une dernière entrée qui est arrivée, elle avait simplement un sac à dos. Comme ça, elle s'est assise sur une chaise et quand on est la chercher, elle est arrivée, elle dit je viens pour vivre la pauvreté. Et elle est rigoureuse avec ça. C'est-à-dire, chaque fois qu'elle voit qu'il y a encore trop dans son ermitage, elle dit bon, ça, j'en ai pas besoin.
Alors, qu'en fait-elle? Elle les donne?
Elle les donne, mais parce que le propre de la vie monastique, et c'est dans notre règle du Carmel, c'est la mise en commun des biens. Donc, je mets en commun, et puis après, on distribue. Il y a des sœurs qui ont absolument besoin d'avoir ceci ou cela pour leur travail. Au fur et à mesure, on use, bien entendu. Et puis, ou bien il y a des livres qu'on met au commun à la bibliothèque, tout simplement. Voilà. Alors qu'on y tenait, il y a évidemment le choix de vie que nous avons fait. C'est-à-dire, c'est un choix de vie sobre. Et donc, il y a beaucoup de choses sont hors de question du fait de ce que nous sommes.
Par exemple ?
Ben, évidemment, au niveau des vêtements, nous avons un habit que c'est toujours le même toute l'année.
Vous pouvez nous décrire cet habit ?
Alors, cet habit, il est marron, c'est la couleur du carmel. Il comporte une robe, un habit, et puis un scapulaire qui, à l'origine, c'est tous les mois, dans ce scapulaire, à l'origine, c'était un tablier, tout simplement. Donc nous avons gardé cet habit, la couleur de la traditionnelle du Carmel, avec le voile noir qui n'a pas de signification autre que d'aller avec l'habit. Pour le travail, nous sommes en tenue de travail, mais avec ce qu'on nous donne, avec ce que nous n'achetons rien. Les familles qui amènent, voilà, ou bien on use jusqu'à la fin ce qu'on a apporté quand on est entré.
Comment êtes-vous chaussée ?
Et nous avons des sandales.
Et vous êtes nu-pieds ?
Nous sommes nu-pieds. Comme nous sommes en habit, nous sommes nu-pieds.
En mois de février ?
Oui, voilà. C'est un symbole, disons. Un symbole d'une certaine sobriété de vie. La question se pose aussi, je dirais, pour... la question, alors, plus par rapport à la vie que nous avons choisi de vivre en un seul lieu qui reste quand même un lieu de recueillement et d'une ouverture sur le monde, mais qui ne soit pas une ouverture tous azimuts. C'est pourquoi nous réfléchissons beaucoup à la question d'Internet, par exemple. Parce qu'il faut l'avoir, peut-être, pour le courrier, ce serait très commode, ce serait évidemment. Mais ça implique une réelle discipline pour qu'il n'y ait pas brusquement la tentation d'y passer ces journées. Là, on a une journée qui est des journées avec des horaires très serrés, beaucoup de travail, et il faut que c'est ça qui est premier, que la vie... Donc, une question qui se discute.
Alors, donc Internet, vous allez discuter pour savoir si oui ou non vous allez l'intégrer dans la communauté.
De quelle manière, en tout cas, et avec de quelle discipline. Enfin, c'est un choix.
Internet et la télévision sont délibérément mis à distance. Pas question non plus d'avoir une radio dans son ermitage. La télé, les moniales la regardent très peu, sauf événement international d'envergure, le 11 septembre 2001 par exemple. Les jours d'élection présidentielle, les sœurs s'autorisent également une soirée devant le petit écran. 3 ou 4 fois par an, des programmes jugés intéressants sont enregistrés, puis toute la communauté entame le débat après avoir vu l'émission. Mais l'essentiel n'est pas là. Pour les carmélites, vivre au monastère, c'est un recul nécessaire pour ne pas être dans l'immédiateté, l'émotionnel. Surtout, éviter le bavardage du monde et les apparences.
Le Carmel, en fait, domine toute une vallée qui est plongée là dans la brume et il va probablement faire très beau aujourd'hui. Il fait très froid aussi. Nous allons voir les sœurs bergères. Donc, voilà. On descend vers c'est un très très grand bâtiment en bois. Et là, on domine complètement cette grande vallée. Et c'est magnifique. C'est un magnifique paysage d'hiver, totalement plongé dans la brume avec le soleil qui se lève. Bonjour,
Sœur Gabriel.
D'accord. Ma sœur, vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train de faire ?
Je leur donne la ration de farine et de granulés pour les mères laitières, pour qu'elles produisent plus de lait.
Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce travail au sein de la communauté ?
Ça nous a été demandé. Donc c'est vraiment la prieure qui nous demande
d'occuper l'un ou l'autre office dans la communauté. Voilà. On nous a demandé de nous occuper des brebis.
Nous avons choisi d'être carmélites avant tout. Puis nous sommes rentrés là et c'est une des activités de ce Carmel. Donc on nous a demandé évidemment que s'il y avait eu des... Enfin, si on avait émis des résistants...
Des réserves.
Voilà, des réserves, on en aurait tenu compte. Mais comme ça nous plaisait bien en plus. Donc...
Le fait de produire, de vivre avec les biens que vous produisez, qui viennent de la terre, ça vous évite justement de côtoyer cette société de consommation. Quel regard vous portez sur notre société de consommation ?
D'abord, c'est pas une, je sais plus quel mot vous avez employé. Enfin, c'est pas une fuite, c'est pas de cette société de consommation, puisque nous y participons aussi, puisque nous ne produisons pas tout, nous en avons besoin aussi, donc nous ne la renions pas. Mais en même temps, tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, gagner notre argent par nous-mêmes, et oui, faire porter du fruit à la terre, tout ce qu'on peut faire comme ça, c'est aussi la porter à notre société de consommation, puisqu'il y a beaucoup de gens aussi qui viennent et qui profitent des biens que nous produisons. Donc nous faisons partie de cette société.
Et qui ici rencontre un autre modèle de vie ?
Lorsque vous avez intégré le Carmel, vous avez fait vœu de renoncement aux biens matériels ?
Oui, vœu de pauvreté, oui, c'est ça.
Et alors, concrètement, ça se traduit comment ?
C'est-à-dire que nous n'aspirons pas à avoir plus que ce dont nous avons besoin. Mais ça ne veut pas dire que nous manquions dans ce dont nous avons besoin.
Donc du coup, on dit plus une vie simple.
Voilà.
Et par exemple, pour les vêtements, on le reçoit. Donc quand un pull ouvert a trop de trous, la lingère nous donne un autre. Et ce n'est pas le pull ouvert que peut-être dans ma vie intérieure, j'aurais choisi. Mais voilà, je le porte parce que voilà, un pull ouvert, il est là pour me vêtir. Voilà.
Le désir matériel n'est pas à rejeter, il est important. Mais après, on dit « allons plus loin
oui. ».
Il vous arrive parfois de voir des revues de presse féminines ?
On n'a pas tellement le temps, en fait, de lire. Mais quand on en a sous la main, oui, on les lit.
Parce que je suppose que ces revues doivent totalement être étrangères à votre monde. Enfin, je suppose que c'est un discours que vous trouvez totalement superficiel.
Ça veut dire que ça ne dit pas tout de la femme, je dirais comme ça. C'est un aspect complètement surchargé qui oublie l'autre aspect. Justement, on a des capacités émotionnelles et affectives qui sont très beaux et qui ne dépendent pas de notre aspect physique, de notre manière d'être mince ou pas très mince. Non, on a des capacités relationnelles énormes et très beaux et qui nous donnent vraiment la vie en profondeur et la vie qui rend heureux. C'est pas être belle qui rend heureux, c'est être aimée et aimée à notre tour.
Mais est-ce que vous vous rendez compte que votre discours est très éloigné de la norme que la société actuelle veut nous faire intégrer, nous, aux femmes, par exemple ?
Nous, on n'est pas contre le fait de paraître belle, et ça, c'est une bonne chose. Et se sentir belle, ça aide aussi à se valoriser, même si nous, on n'a pas fait ce choix. Mais on le comprend très bien, c'est pas du tout... un rejet total, c'est simplement rester maître des biens que nous consommons et rester maître de ce qu'on veut faire dire à notre corps.
On arrive au couvent par un petit chemin de gravillon et on descend en contrebas. Quand on descend les marches pour rejoindre l'entrée du couvent, sur la droite, il y a l'église qui a une forme octogonale. Et sur le fronton de l'entrée du Carmel, il est écrit « Nous avons connu l'amour et nous y avons cru, Saint Jean ». Alors on va voir s'il y a quelqu'un.
Je suis ma sœur Marie-Claire, la responsable de la communauté depuis 5 ans, je crois. Oui.
Donc vous êtes la prieure.
La prieure, oui.
Et alors comment devient-on prieure ?
C'est tout simple, par élection.
Ah, vous êtes élue ?
Élue, pour 3 ans. Renouvelable une fois.
C'est difficile, la vie en communauté? Comment vous définiriez ça?
Ah ben, toute vie en communauté est difficile, une vie de couple est difficile, l'amour est difficile. Ça se situe là. Je crois que si on s'aime beaucoup, tout est possible. Tout est possible, oui. Puis si on a la patience de laisser à chacune le temps d'adhérer, le temps de choisir et de modifier cet essentiel qu'il a amené ici, de le modifier par rapport aux autres, c'est possible et c'est passionnant.
Vous, par rapport aux gens qui viennent vous voir, vous avez l'impression que ces gens sont en quête de spiritualité parce que ce que leur propose la société ne comble pas leurs désirs?
Ben ça, c'est évident. C'est évident. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une dame, pourtant, elle était bien placée, elle avait tout ce qu'il fallait. Et puis, elle vient pour quelques jours, pour se reposer, prendre un peu de distance, pour poser. Et puis, je la mets dans une petite chambre là-haut, où il n'y a rien, hein, c'est une minuscule, je ne sais pas si c'est 2 mètres sur 3 ou un petit peu plus. Et puis, il n'y avait rien au mur, on avait, je crois, mis un badigeon, encore pas sûr. Et puis, elle regarde, et puis elle me dit, oh, quel luxe! Alors, je lui dis, enfin, madame, vous m'expliquez. Il y avait le lit, la table, la chaise, et puis peut-être un petit meuble pour ranger des affaires. Elle a dit, mais voyez-vous, chez moi, je ne vois même plus les murs. C'est quand même significatif.
Elle ne voit plus son environnement?
Non.
Quel conseil vous lui donneriez?
De prendre du temps dans sa journée pour regarder autour d'elle. On arrive à dégager 5 minutes, 10 minutes, ça suffit pour faire une unité de journée. C'est ça qui manque, qu'on apprenne, commençant par les enfants, à voir ce qui est beau, ce qui les a réjouis dans la journée. Ce qui était bien.
Quand vous dites qu'on trouve en nous ce que l'on cherche, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'investir dans des biens matériels comme nous incite la société dans laquelle on vit à le faire?
Ah ben non, ben ça, il faut savoir résister. Ben, on n'a pas besoin de tout ce qu'on nous propose. On propose quelque chose, il y a toujours encore mieux, évidemment. Il y a toujours encore mieux. Et on vivra mieux avec ceci, on sera mieux à ceci, on dormira mieux dans tel lit, etc. Non, ben, voilà, déjà vivre de ce qu'on a.
Mais vous pensez que c'est facile d'être en résistance contre cette société-là?
Ben, les enfants ne sont pas éduqués dans ce sens-là. Tout commence avec l'éducation.
Quel précepte on pourrait inculquer aux enfants pour qu'ils ne tombent pas dans ce piège?
Il ne faut pas leur inculquer des préceptes, il faut le vivre à côté d'eux. Leur demander, quand ils demandent, je ne sais pas quoi, un stylo, mais d'un enfant encore un autre, parce que le copain, il en a un qui souffre autrement, qui écrit mieux, etc. Dire, ben voyons voir, tu en as un, tu as vraiment besoin de l'autre? Ou bien on achètera l'autre quand tu auras fini le tien. Être économe, savoir ce que tu as te suffit. J'ai eu cette chance-là, on n'était pas très riches. Et puis j'avais aussi envie de ce que la petite copine avait. Et puis ma mère disait, mais tu n'en as pas besoin. Puis à force de l'entendre redire, et effectivement, je n'en avais pas besoin. Et puis quand j'insistais trop et que je lui cassais les pieds et qu'elle me l'achetait, je voyais bien que c'était de trop.
Se réfugier dans les biens matériels, c'est une compensation? Comment vous expliquez ça, cette attirance?
Non, je ne pense pas que ce soit une compensation, puisque c'est jamais fini. Une fois qu'on commence, on n'a jamais ce qu'il faut. Et voilà, la société, de toute façon, nous invite à ça. Dès qu'on ouvre un journal, même les journaux ou les revues chrétiennes, hop là, on nous met là, comme modèle, quelqu'un qui a réussi. Moi, j'attendais aussi qu'on mette aussi quelqu'un qui se bat, mais qui ne réussit pas. Mais qui se bat et qui continue de se battre et qui a le plus grand trésor, c'est-à-dire l'espérance.
La jeune novice que l'on entend dans ce reportage est restée au Carmel de la Paix. Elle a accompli son engagement définitif en avril dernier. La prieure du Carmel n'est plus sœur Marie-Claire, mais sœur Marie-Agnès. À noter que l'année 2015 qui arrive sera celle du 500e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse d'Avila, une sainte importante pour cet ordre du Carmel qu'elle a réformé au XVIe siècle. À noter aussi qu'en 2008, il y avait encore environ 6000 religieux dans les ordres contemplatifs en France. Il n'y en a plus aujourd'hui qu'un peu plus de 4600. Ce sont aux trois quarts des femmes, dont 850 carmélites. Carmélite à tout prix, c'était un reportage réalisé en 2008 par Emmanuel Davier avec Lydvine Caron à la prise de son, mixage Claude Niort, réalisation Anne Lioro assistée par Agnès Lebot. Les chants que l'on entend dans ce reportage sont interprétés par les sœurs elles-mêmes. Dans quelques instants, le journal de 10h. Bonne fin d'année et à dimanche prochain.